Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Cyril Morin.
Salut, c'est Julien Pereira.
On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato pour ce deuxième numéro de l'été 2022. Bienvenue dans votre rendez-vous 100% transfert. Alors que le mercure s'affole en France, le thermomètre mercato a pris un sérieux coup de chaud aussi ces dernières heures. Julien, de quoi allons-nous parler ce mercredi ?
Alors, on va parler de l'Olympique de Marseille après avoir évoqué le PSG et Lyon la semaine dernière. Cette semaine, on va s'intéresser au mercato de l'OM et à un joueur en particulier qui est de plus en plus proche de l'Olympique de Marseille, c'est Axel Witsel.
On enchaînera avec le mercato de Liverpool qui commence à prendre forme. L'arrivée de Darwin Núñez officialisée pour 75 millions plus 25 millions de bonus. Grosso modo, la plus grosse opération ou le plus gros achat de l'histoire des Reds. En parallèle, le départ de Sadio Mané qui continue de se dessiner. À quoi jouent les Reds dans ce mercato?
Et en troisième partie, on va parler d'un international tricolore qui a passé des saisons, des mois difficiles à Manchester United et qui s'apprête à revenir à la Juventus, c'est évidemment Paul Pogba. Est-ce que c'est décevant pour lui? Est-ce que c'est le début d'un rebond pour le milieu de terrain? Et qu'est-ce que ça dit aussi de la stratégie de la Juventus? On en parlera avec Guillaume Maillard-Pacini.
Voilà, comme d'habitude, après ce sommaire, vous connaissez le petit dicton. Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis pendant tout l'été sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à commenter, à venir nous chercher sur les réseaux sociaux pour nous donner pour nous demander des infos, pour nous demander des choses particulières concernant l'émission. Et si vous préférez la vidéo, évidemment, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur le site d'Eurosport.fr. Julien, avant de commencer, un petit mot pour notre compère habituel, Martin Mosnier, qui a rejoint de nouveau le FC Paternité. Pour lui aussi, c'est un retour. Donc, on souhaite beaucoup de bonheur à la famille Mosnier.
Et du courage.
Et du courage, exactement. Allez, on est parti, Julien, pour ce premier sujet qui nous envoie donc vers la Canebière et vers l'Olympique de Marseille avec une piste toute chaude révélée par l'équipe ce mercredi. Alex Witsel dans le viseur de Pablo Witsel, dans le viseur de Pablo Longoria pour remplacer Boubacar Camara qui s'est donc envolé pour Aston Villa. La première question, elle est toute simple, Julien. Que faut-il penser de cette piste made in Pablo Longoria?
Moi, je la trouve plutôt intéressante. Sur le papier, c'est un joueur qui est très intéressant, qui a des qualités à la fois techniques, à la récupération. C'est un joueur très complet. Qui a évidemment beaucoup d'expérience. C'est aussi pour ça que Longoria s'intéresse à lui, parce que l'OM cherche des profils d'expérience pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc globalement, sur le profil, je suis assez convaincu. Il coche toutes les bonnes cases pour remplacer Boubacar Camara. Ce qui est étonnant, je trouve, avec ce joueur, c'est que finalement, il a une carrière qui ne correspond pas vraiment à ses qualités. Il aurait pu, je pense, viser plus haut. Il est parti où il s'est révélé, où il a explosé. Ensuite, ça a été l'exil en Russie, puis en Chine, puis il est revenu en Allemagne, où il a été un joueur important du Borussia. Et en parallèle, ça a toujours été un joueur majeur de la sélection belge, et ça dit quand même quelque chose de son niveau, finalement.
Complètement. Ce qu'on peut dire sur son profil, déjà, c'est qu'il est libre. Donc forcément, très convoité, mais aussi très intéressant financièrement. Autre petit détail, lui, tu as parlé de son parcours atypique, Witsel veut rester en Europe, notamment en vue de la Coupe du Monde de Qatar et des échéances qui arrivent. Et donc, dans ce cas-là, l'OM, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions, représente une destination intéressante pour lui. Moi, j'ai un petit doute sur une chose, c'est le contrat que sera en mesure de lui proposer l'Olympique de Marseille. À Dortmund, il émane à 8 millions d'euros par an, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'à Marseille, le plus gros salaire, c'est celui de Cédric Bakambou, qui est à 400 000 euros par mois. Donc, allez, si on arrondit à 5 millions à l'année. Est-ce que Marseille va être en capacité d'offrir autant à un joueur de 33 ans? J'ai un doute. Et surtout, est-ce que c'est souhaitable de faire signer? Parce que quand vous attirez un joueur libre de 33 ans, ce n'est pas pour lui faire signer un contrat de 1 ou 2 ans. Souvent, c'est pour des longs contrats avec des gros salaires à la clé. Le risque, pour moi, il est là avec Witzel. Je suis complètement d'accord avec toi sur le profil sportif. Il a tout pour cocher les cases et pour amener un peu plus d'expérience à cette équipe marseillaise qui en a un petit peu manqué ces derniers mois. En revanche, le risque qui peut se présenter dans 2 ou 3 ans d'avoir une chute de niveau sportive et que Witzel devienne un boulet financier, sachant que l'OM en a déjà quelques-uns attachés à ses pieds, ou en a eu en tout cas par le passé. Donc le vrai risque, il est là. Et au fond, cette piste, elle dit quand même un petit peu pas mal de choses sur le grand écart imaginé par Pablo Longoria sur ce mercato, Julien.
Oui, parce que on distingue clairement, quand on regarde les noms qui sont évoqués du côté de l'Olympique de Marseille, qu'il y a entre guillemets deux stratégies, deux visions qui n'en font qu'une, parce qu'il y a l'attrait de Pablo Longoria pour les jeunes joueurs qui représentent une opportunité, les jeunes talents. On a entendu parler de Touré, notamment, le défenseur du Havre, ouais, qui a priori va plutôt se diriger vers Manchester City. On a entendu parler de Mohamed Alichaud, qui lui s'est révélé à Angers cette saison et qui va probablement se diriger vers l'Espagne et la Real Sociedad. Et puis, à côté, on a des noms de joueurs plus expérimentés. On a entendu parler de Coquelin, on a entendu parler de Capou aussi, Witzel maintenant. Donc, clairement, on sent qu'il y a à la fois une envie de Longoria de continuer ce qu'il a entrepris ces derniers mois, en tout cas depuis qu'il a pris la tête du club, c'est-à-dire aller chercher des jeunes joueurs et profiter de son réseau et de son talent pour les repérer, pour les attirer, et à côté l'obligation finalement d'attirer des joueurs d'expérience pour la saison prochaine. Ce qui est intéressant sur ce que tu disais sur Witzel, c'est que quelque part ça va permettre d'en savoir un peu plus sur les compétences de Longoria. On sait qu'il est capable de construire un effectif, on sait qu'il est capable d'attirer des jeunes joueurs et de les convaincre. On ne sait pas comment il va être capable de gérer financièrement un joueur avec un gros salaire, avec une grosse expérience. Quel montage il va être capable de mettre en place pour payer ce joueur? Est-ce que ça sera à travers des primes de match, à travers des primes de résultats et de performances, etc.? Comment ça sera étalé sur la saison? Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose. L'Olympique de Marseille est toujours surveillé par la DNCG, est dans l'attente d'une décision du gendarme financier du foot français pour savoir si sa masse salariale sera une nouvelle fois encadrée comme elle l'était la semaine dernière, ses indemnités de transfert aussi. Donc, l'OM joue serré, Longoria joue serré, et ça sera intéressant de voir comment le président de l'OM va être capable de négocier avec un joueur comme Witzel.
En fait, ce qui est terrible dans la situation de Longoria, c'est qu'on sent qu'il a énormément d'idées et on a presque envie de lui donner un super budget pour qu'il aille au bout de ses idées, mais qu'il est obligé de bricoler, et il l'a très bien fait la saison passée, parce que avoir l'effectif qu'avait l'OM la saison passée avec les moyens qu'ils avaient, ça relevait d'un tour de magie. Voilà, Saliba, Guendouzi, c'est quand même, pour attirer ces joueurs-là, il faut savoir les convaincre et il faut aussi les pister en amont. Donc, c'est frustrant, mais Longoria, il hérite d'une tradition marseillaise un petit peu qui a créé un cercle vicieux à Marseille. C'est cette incapacité de bien vendre les joueurs marseillais et donc de s'offrir de l'oxygène à travers de grosses ventes. Et évidemment, le miroir lyonnais en face de ça fait mal à l'Olympique de Marseille. On s'est amusé à retracer sur les 5 dernières années les plus grosses ventes de Marseille. La plus grosse vente, c'est Zambo Anguissa à 25 millions d'euros. Très bien vendu, mais on voit qu'aujourd'hui, il en vaut presque autant, et ça prouvait que finalement c'était pas une hérésie totale de la part de Fulham à l'époque de l'acheter. Il y a eu Morgan Sanson et Ocampos vendus pour 15 millions chacun. Pareil, Ocampos il vaut beaucoup plus que 15 millions aujourd'hui. Et puis il y a eu Bounassar pour 8 millions en 2020-2021. Ces sommes-là, elles sont pas du tout astronomiques. Et elles ne permettent pas de combler tout le déficit accumulé, elles ne permettent pas de réinvestir cet argent sur des grosses sommes. Et
elles ne permettent même pas de combler les achats, sans même
exactement
parler du déficit qui est important, même de combler les achats, parce que tu parlais des joueurs qui ont été attirés l'été dernier, les Saliba, Guendouzi, etc. C'était quand même une stratégie court-termiste. L'objectif, c'était de construire une équipe qui était opérationnelle pour retrouver la Ligue des Champions. Mais c'était à travers des prêts avec options d'achat, etc. Là, on sent qu'il y a quand même une vraie volonté de construire quelque chose de plus durable, de plus viable, et donc forcément qui demande plus de moyens.
Donc, surtout sur le marché des jeunes aujourd'hui, en plus.
Il y a une vraie importance de vendre, et malgré la saison marseillaise qui a été plutôt réussie, finalement, vous n'avez pas tant d'actifs que ça, pas tant de valeurs marchandes que ça. Donc, effectivement, c'est aussi là qu'on va pouvoir juger des compétences de l'ouvrière parce que c'est vraiment très, très compliqué.
Ce qui est presque sûr, c'est que, enfin, presque sûr, il faut jamais jurer de rien dans le mercato, mais quand on voit les actifs à disposition de l'OM cet été, il n'y aura toujours pas de vente dépassant, allez, 25 millions d'euros, a priori, sauf énorme surprise concernant, je sais pas, un Gerson par exemple, mais il y a très peu de joueurs qui valent autant d'argent dans l'effectif marseillais aujourd'hui, et que bah, on risque de se diriger vers un nouveau mercato court-termiste, tu l'as dit, et donc l'OM risque de continuer à construire, mais un petit peu sur du sable, parce que bah, Saliba, bah, probablement qu'il ne reviendra pas cet été, malgré ses envies. Bah, Arsenal a l'air déterminé à l'idée de le garder. Ils ont réussi à conserver Guendouzi, mais ce ne sera pas le cas pour tous les prêts. Donc, bah, moi, je pense que Marseille va encore aller flairer des bonnes affaires. Witzel en est une, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on voit que Longoria, elle a compris comment marchait le mercato, c'est que les contacts, ils ont été initiés bien avant le mois de juin, et c'est ce qui permet à l'OM aujourd'hui d'être un petit peu en avance dans ce dossier-là. Il n'empêche que ça va être encore de la construction court-termiste, et que peut-être que le vrai projet Longoria et le vrai projet OM, s'ils bénéficient du temps nécessaire, on pourra le voir que dans 1, 2 ou 3 ans, à partir du moment où l'OM aura remis ses finances au vert. D'ici là, c'est bricolage un petit peu obligatoire.
Oui, et puis ce sera intéressant de voir ce que compte faire aussi Franck McCourt
Bien sûr.
avec les finances. Est-ce qu'il va encore une nouvelle fois combler le déficit? On a quand même la sensation qu'il a plutôt envie maintenant d'essayer d'avoir un petit retour sur investissement. Alors, à court terme, ce sera impossible. Ça fait quand même plusieurs saisons qui bouchent les trous. Là, il attend vraiment de récupérer un petit peu d'argent. Et donc, potentiellement, malgré la situation sportive qui est plutôt bonne, bah Marseille pourrait devoir jouer plus serré que sur les précédents exercices.
Et pour être tout à fait complet sur le sujet, Marseille, il se murmure du côté de Marseille ces dernières heures qu'un nouveau directif sportif va donc venir accompagner Pablo Longoria, qui est donc le président aujourd'hui. Javier Ribalta, passé par Manchester United notamment, l'AC Milan, la Juve. Voilà, un homme aussi de réseau, réseau international. Donc ça c'est important pour Pablo Longoria, et qui parle un petit peu le même football, ou en tout cas la même méthodologie que Longoria, à savoir un adepte des prospects et du scoutisme. Donc on verra jusqu'où ça ira pour l'OM. On espère pour l'OM et pour la Ligue 1 que Witzel viendra, parce que ce serait une excellente recrue et ce serait un très bon indicateur de l'ambition marseillaise pour la saison à venir. Mais maintenant, Julien, on a parlé d'un club qui était en difficulté financière. Là, on va parler gros sous. On va parler de Liverpool et de la toute puissante Premier League, puisque vous l'avez sans doute vu, Liverpool a fait chauffer le chéquier pour attirer Darwin Núñez en provenance de Benfica. Transfert officialisé lundi, si je ne m'abuse, ou mardi. 75 millions d'euros plus 25 millions de bonus. Des bonus très faciles à atteindre, hein, tu me confirmes, Julien, c'est ça?
Facile à atteindre, c'est sur le nombre de matchs que Darwin va jouer sur les 5 prochaines saisons. Et c'est un total qui n'est pas très élevé. Puis a priori, sauf blessure ou sauf rétrogradation durable sur le banc, les 25 millions seront atteints.
Le cas Darwin Núñez, ça soulève forcément des questions pour l'avenir de Liverpool et pour le visage de Liverpool la saison prochaine. Peut-être déjà un petit mot sur Darwin Núñez, Julien. On l'a vu notamment en Ligue des Champions, parce qu'on ne suit pas forcément de très près, ou en tout cas moi personnellement, la Liga portugaise, mais on l'a vu en Ligue des Champions briller dans des grands matchs, et notamment dans le duel face à Liverpool, où Jürgen Klopp avait été très impressionné, pardon. 6 buts en Ligue 1, 34 au total. Sur le profil technique du joueur, on l'a souvent comparé à Cavani. Toi qui l'as vu un petit peu plus, est-ce que tu as des doutes peut-être sur son niveau et sur ce qu'il peut apporter à Liverpool?
Alors, pour une fois, la comparaison, elle n'est pas abusive. Il y a vraiment beaucoup de points communs entre Núñez et Cavani. Déjà, physiquement, c'est un joueur qui est imposant, c'est un joueur qui est assez grand, 1,87 m. Et surtout, il y a une vraie caractéristique commune avec Edinson Cavani, c'est sa capacité à ne pas se ménager sur les efforts et à faire le pressing. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment décisif pour Liverpool, parce qu'on sait que le pressing est très important pour Jürgen Klopp. Et donc, à ce titre-là, pour moi, c'est un joueur intéressant parce qu'on sait aussi que c'est un grand buteur et on a vu la saison dernière qu'il était capable de marquer dans les grands matchs. C'est lui qui qualifie le Benfica contre l'Ajax notamment. Donc, sur ce plan-là, je n'ai pas de doute. J'ai plus de doutes sur le profil en tant que tel parce que c'est un vrai joueur de fixation. C'est un joueur qui est moins à l'aise dans les petits espaces que Sadio Mané, puisqu'il arrive pour remplacer a priori Sadio Mané en attaque. J'attends de voir, est-ce que ça va permettre peut-être à Liverpool de sortir, j'allais dire une dépendance, le mot est fort, parce que finalement le danger vient de partout à Liverpool, mais est-ce que ça va permettre finalement d'alléger l'importance de Mohamed Salah en attaque? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment ce joueur-là va s'inscrire dans le trio offensif. On a vu que Luis Diaz avait très bien marché, il s'est très vite intégré. Pour moi, Darwin, c'est un petit peu plus compliqué à intégrer parce que c'est un profil qui est finalement assez atypique. En tout cas, c'est des joueurs qu'on voit de moins en moins. Un vrai point de fixation qui est capable de marquer des buts, un vrai joueur de surface. Donc, j'attends de voir. L'autre doute aussi, c'est sa condition physique. C'est un joueur qui a connu beaucoup de blessures au genou par le passé. Ouais. C'est ce qui avait notamment beaucoup refroidi les supporters du Benfica à l'époque où il est arrivé à Lisbonne. Cette saison, ça s'est plutôt bien passé. On verra si sur la durée, ça passera bien aussi.
Alors, ce qui est intéressant, moi, sur le cas de Nunes, je partage un petit peu les doutes et les voilà sur le niveau global. Il n'empêche qu'il coche toutes les cases de ce que faisait Liverpool depuis des saisons. Donc, Nunes, il arrive et si les bonus sont alignés, il passera devant Van Dijk comme le joueur le plus cher de l'histoire de Liverpool. Mais Liverpool, depuis plusieurs saisons, il décide un été, ils mettent le pactole sur un joueur qui est un peu un game changer. Il y a eu Alisson, il y a eu Van Dijk, évidemment. L'hiver dernier, c'était Luis Diaz. Et c'est important de souligner que Julian Ward, qui donc est devenu le nouveau directeur sportif de Liverpool, était à la manœuvre avec Luis Diaz. C'est encore lui qui est à la manœuvre avec Nunes. Et faut savoir que Darwin Nunes, il est suivi par Liverpool depuis de très nombreuses années. Et déjà, lors de son éclosion en Uruguay, les scouts de Liverpool avaient un œil sur lui. Donc, ils ont suivi sa trajectoire depuis des années. Donc, au fond, Liverpool reste fidèle à sa méthode. À savoir, on suit un joueur. C'est un joueur qui n'est pas encore... c'est pas un produit complètement fini. Mais on veut le faire progresser dans l'environnement Liverpool. C'est ce qui s'est passé avec Salah, c'est ce qui s'est passé avec Mané, c'est ce qui s'est passé avec tous les joueurs qui se sont succédés. Alors, la somme, elle peut paraître excessive, évidemment. Mais on rappellera ici que Darwin Nunes était le troisième attaquant de pointe le plus en vogue de l'été, derrière Kylian Mbappé et derrière Erling Haaland. Quand on sait que le Real Madrid, potentiellement, va aussi se chercher un attaquant de pointe, quand on sait que le marché des jeunes attaquants continue de flamber, il faut prendre de l'avance sur la concurrence. Donc, Liverpool,
Il y avait la concurrence de Manchester United.
Exactement, exactement. Liverpool, à partir du moment où ils ont été convaincus du profil de Darwin Nunes, ils ont foncé, ils ont payé le prix, et à partir de là, la concurrence avait été dans le rétro. Donc, finalement, c'est plutôt logique sur la méthode de la part de Liverpool. Je pense que ça dit quand même quelque chose de l'évolution de Liverpool qui reste très attaché à cette méthodologie et à cette façon de faire. Et d'ailleurs, Julien, on va en parler un petit peu parce que l'arrivée de Nunes, elle semble se combiner avec un départ de Sadio Mané. On a l'impression que Liverpool reste fidèle à sa politique, à savoir ne pas offrir de contrat démesuré à des joueurs de plus de 30 ans et continuer à aller chercher des jeunes joueurs à faire grandir dans le projet.
Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est difficile d'avoir des doutes sur ce que fait Liverpool, parce que globalement, depuis 3 ans, Liverpool fait entre guillemets toujours la même chose sur le mercato. Ouais. Tu l'as dit, ils mettent beaucoup d'argent sur un joueur.
Et très peu d'échecs.
À chaque fois, voilà, il y a très peu d'échecs. Vous regardez les 10 plus gros transferts de Liverpool de son histoire. Et bah, sur les 10, il y en a 9 qui sont des titulaires ou des joueurs très importants de l'effectif. C'est quand même assez impressionnant. Et surtout, tu en parlais aussi, c'est marrant, c'est intéressant de voir à quel point Liverpool suit son joueur depuis de longues années et à quel point il a l'aval aussi de Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, c'est un entraîneur qui a beaucoup parlé de Darwin ces derniers mois. Il a beaucoup vanté ses qualités. Donc, on sent qu'il y a une vraie osmose. On voit que Liverpool sait où il va. Puis, au niveau sportif, c'est un club qui reste au top. Donc, c'est difficile d'avoir des doutes. Là, c'est surprenant parce qu'encore une fois, c'est une somme qui est finalement très importante, qui est plus importante que tous les joueurs qui sont passés. Et surtout, c'est un joueur qui a un profil un petit peu plus atypique. Donc, c'est difficile d'être complètement confiant après ce transfert. Et pour revenir à ce que tu disais sur la politique de Liverpool, finalement, ça montre que le club sait où il va aussi, quitte à se séparer de Mané, qui a été peut-être le deuxième ou troisième joueur le plus important cette saison.
Qui veut partir aussi, hein. faut le souligner, ça joue dans cette histoire-là.
Mais qui n'est pas retenu.
qui n'est pas retenu.
Et quelque part, Liverpool ne cède pas à ce que font d'autres clubs, c'est-à-dire une espèce de fuite en avant. C'est ce qu'on avait vu avec le Barça ces dernières années, c'est-à-dire que on prolonge un joueur, pardon, sous ces conditions, et puis vous avez un autre joueur majeur qui vient vous dire, bah, lui a été augmenté, donc moi aussi je veux l'être, et puis ça fait exploser votre masse salariale, puis l'équilibre économique, puis l'équilibre sportif. Donc finalement, Liverpool fait tout bien, et même si Mané est un joueur extraordinaire, un joueur important, bah, c'est pas si choquant que ça de le voir partir et remplacer par un joueur comme Darwin.
Au fond, c'est presque, pour moi, c'est presque une erreur de dire que Darwin arrive pour remplacer Sadio Mané. Le remplaçant de Sadio Mané, il est déjà à Liverpool. Il a fait 6 mois d'enfer. C'est Luis Diaz. Donc, ça prouve aussi, quand on vous parle de planification à Liverpool et de travail bien fait, c'est que tout ça, il l'avait anticipé. Même les envies de départ de Mané, même si elles ont été officialisées récemment, on l'avait senti du côté de Liverpool. Et donc, on cherchait déjà à préparer la suite. Donc, Darwin Núñez, c'est presque plus le remplaçant de Firmino, qui a un petit peu baissé en intensité et en qualité ces dernières semaines, que de Sadio Mané. Moi, il y a un dernier dossier qui dira beaucoup, à mes yeux, de ce que veut faire Liverpool et à quel point Liverpool est inflexible sur cette volonté de garder le cap. C'est le dossier Mo Salah. Parce que, qu'on le veuille ou non, Mo Salah est une plus grande star que Sadio Mané, parce que Mo Salah incarne plus Liverpool que Sadio Mané, et parce que Mo Salah est dans la même situation que Sadio Mané, à savoir un contrat qui se termine en 2023. Mo Salah attend toujours une offre de prolongation. A priori, il ne partira pas cet été, sauf énorme revirement de situation. Mais les prochains mois risquent d'être brûlants à Liverpool, parce que offrir à Mo Salah le salaire qu'il réclame, à savoir le salaire même qu'il mérite dans l'écosystème mondial actuel, à savoir un salaire de superstar et de top 5 européen, ça reviendrait à mettre fin à cette politique de gestion de salaire et d'équilibre dans le vestiaire qui a fait sa réussite. Et au fond, je pense que c'est moins un problème pour Liverpool de mettre 100 millions d'euros sur Darwin Núñez que d'offrir à Mo Salah le contrat exceptionnel qu'il réclame. Et à mes yeux, le dossier Salah dira beaucoup plus de Liverpool dans les mois qui viennent.
Ouais, et juste un dernier truc, ce que tu disais, c'est intéressant sur l'anticipation au niveau tactique. Techniquement, Luis Diaz, ce n'est pas un 9, Mané ouais. A joué 9. Mais grosso modo, Liverpool s'est dit, bon, bah, on va prendre un ailier pour prendre la place de Mané, pour pouvoir vraiment installer Mané dans l'axe. Aujourd'hui, Mané part, Liverpool se dit, bon, bah, on a besoin d'un vrai 9 pour refaire finalement ce qui avait été fait avec Firmino il y a quelques années, parce que Firmino est quand même un petit peu reculé dans la hiérarchie des attaquants. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, tout est réfléchi à l'avance, tout est pensé à la fois économiquement et sportivement. Et finalement, bah, pas beaucoup de clubs en Europe sont capables de faire ce que fait Liverpool.
Ben voilà, Julien, je crois qu'on a fait le tour du côté de Liverpool, qui sera de toute façon encore un animateur du marché. Vous pouvez être sûr que, autant dans le sens des départs que des arrivées, il va y avoir du mouvement. On va terminer cette émission, Julien, si tu le veux bien, avec un invité de marque que vous connaissez si vous êtes un auditeur fidèle de Mercredi Mercato. On va parler du cas Paul Pogba, en passe de rejoindre à nouveau la Juventus Turin. Et pour ça, on accueille Guillaume Maillard-Pacini, notre spécialiste football italien. Guillaume, on va parler donc du dossier Paul Pogba et le Pogback à la Juventus qui prend forme. Peut-être un tout petit point, info toute fraîche. Quand est-ce que ça va être officialisé et quels sont les contours de l'arrivée de Paul Pogba à la Juventus Turin?
Alors écoute, en Italie, on est certain que ce sera officialisé début juillet. Okay. La Juve reprend l'entraînement autour du 4-5, donc ce sera officialisé juste avant. Alors, ce sera l'heure des retrouvailles pour Pogba et la Juve. Et au niveau du contrat, on parle de 4 ans. Hein, c'était 3-4 ans, mais visiblement, ce sera 4 ans avec un salaire, et c'est important parce que la Juve a fait un gros effort, de 8 millions d'euros plus 2 de bonus pour atteindre donc les 10 millions d'euros, ce qui est un effort quand même assez conséquent quand on connaît la Juve. Donc voilà, c'est à peu
près le gros salaire de la Juve, on est d'accord, hein, puisque c'était Vlahovic depuis l'hiver dernier.
Ouais, c'est le plus gros salaire de la Juve. C'est quand même, fut un temps, on aurait dit que c'était un salaire à peu près normal à la Juve. Quand on connaît aujourd'hui les contours du projet, on va parler, c'est vraiment un effort conséquent qu'a fait la Juve pour le retour de Pogba.
Alors, Julien, avant de parler de la Juve et du projet Juventus, on va d'abord faire un petit focus sur Paul Pogba et sur sa trajectoire de carrière. Manchester United, Juventus, Manchester United, Juventus de nouveau. Et ce petit goût de déception presque Quand on se souvient du joueur qu'il était, de gâchis, quand on se souvient du joueur qu'il était en 2016, au moment de retrouver Manchester United, on a l'impression que Pogba est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il n'a jamais su se défaire de ça, et de ce, voilà, du coup payé par Manchester United de 105 millions d'euros à l'époque, qui lui a longtemps collé au basque et qui a empêché presque l'Angleterre parfois d'être lucide sur ce qu'était Paul Pogba et ce qu'il pouvait apporter dans une équipe.
Oui, parce que quand on parle à nos amis anglais, on est en relation très fréquemment, on peut le dire à nos auditeurs, avec notre rédaction anglaise. Bah, ils ne comprennent pas pourquoi Paul Pogba a cette importance-là, notamment en équipe de France. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, justement, on s'étonne de sa situation à Manchester United. Donc, tout ça renforce le sentiment de gâchis. Au final, je vais te poser une question, Cyril. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 6 dernières années à Manchester United de Paul Pogba ?
Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a pas d'image hyper marquante. Alors, il y a des buts, il y a des matchs importants. Voilà, il y a le Manchester Derby, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai le souvenir d'une excellente période lors du restart post-Covid, avec notamment l'apport de Bruno Fernandes, où là, les deux s'étaient parfaitement trouvés. Mais ce que je retiens plus, c'est l'incompréhension entre Pogba et la presse anglaise, les pundits qui fracassent Pogba match après match, et ce décalage assez incroyable entre le Pogba de l'équipe de France, ultra dominant, on ne vous rappellera pas son importance en 2018, mais ce rôle de leader qu'il n'a jamais pu assumer finalement à Manchester United. Il est arrivé au tout début en 2016 dans un vestiaire où il y avait encore des anciennes gloires qui avaient du mal à comprendre le fonctionnement de la nouvelle génération, et c'est Wayne Rooney qui expliquait ça, je crois, récemment, qui illustrait un petit peu ce décalage-là. Et puis il a été vite ringardisé par un joueur comme Bruno Fernandes, par exemple, qui a incarné presque instantanément le renouveau de Manchester United. Et de l'entre-deux, bah, c'est cette période bizarre pour Manchester United où il n'y a pas beaucoup de titres, où on s'embête sur le terrain et où Pogba alterne les blessures, les prestations un peu plus anonymes et malgré tout des passes décisives qui restent peut-être le meilleur argument de son passage à Manchester United. Donc pas grand-chose, je retiens pas grand-chose du retour de Pogba à Manchester United, si ce n'est ce décalage XXL entre ses performances en club et en sélection. Peut-être, Guillaume, toi qui suis la presse italienne au quotidien, est-ce qu'on s'inquiète peut-être de ça à la Juventus ? Est-ce qu'on ne se dit pas que les 6 années, on a un souvenir d'un Pogba brillant à la Juventus Turin, on a l'impression qu'il a perdu 6 ans en route avant de revenir à la Juve à 29 ans ?
Alors, pour ne pas te mentir, Cyril, on sait évidemment que ce n'est plus le Pogba de l'époque qui avait mis des buts assez incroyables. C'est vraiment peut-être que Pogba était vraiment la forme de sa vie quand il était finalement à la Juve. On le sait que ce n'est plus le même, on n'a même pas besoin de se le dire. En tout cas, la presse est vraiment euphorique de ce retour-là parce qu'il y a un côté quand même symbolique où on sait que Pogba a vraiment insisté pour revenir à la Juve. Lui est persuadé que c'est le moment idéal parce qu'il y a le Mondial qui va arriver en plein cours de saison. Ouais. Et lui pense vraiment que c'est le club parfait où il peut retrouver sa forme, où il peut mettre des minutes dans les jambes avant justement de commencer le Mondial avec les Bleus. Donc évidemment qu'on sait que c'est plus le même. On l'a vu à Manchester, vous en avez très bien parlé. Mais c'est vrai qu'on, tu sais, en Italie, c'est vrai, on est tout romantique. Et on a envie de croire que Pogba, en revenant à la Juve, il peut redevenir le premier Pogba qu'on a connu en Italie. En tout cas, on pense que le match Juve Pogba et même Allegri, Cyril, parce que Allegri a joué un rôle déterminant pour ce retour. Les deux étaient en contact fréquent. Ils s'adorent. On a plein de souvenirs de son premier passage à la Juve quand les deux étaient réunis. Donc, Allegri est vraiment important pour ce retour-là. Et c'est vrai que toutes ces composantes-là ont fait qu'aujourd'hui, Pogba a insisté, parce qu'on savait qu'il avait d'autres offres, comme le PSG, ce n'est pas un secret. Mais lui a vraiment insisté pour revenir à la Juve, qui lui offrait un salaire. Certes, on a parlé de 10 millions d'euros qui est conséquent, mais de ce qu'on dit en Italie, c'est qu'il aurait pu gagner quand même beaucoup plus en signant ailleurs.
Oui, mais malgré tout, je pense que les approches les plus concrètes seront restées celles de la Juve. On l'avait dit avant le mercato, de toute façon, le mercato de Paul Pogba, il était atone. Il y avait le Real Madrid qui s'est rapidement positionné sur Tchouaméni, donc il n'est pas revenu sur le cas Pogba. Le Paris Saint-Germain, on sait que Luis Campos est plutôt friand d'autres profils et que la piste Pogba, elle était plutôt alléchante pour Leonardo et pour l'éventuelle arrivée de Zinedine Zidane, mais beaucoup moins si c'est l'attelage Campos-Galtier qui prend le pouvoir à Paris. Donc finalement, moi je trouve qu'il n'avait pas tant de choix que ça, Paul Pogba. Julien, peut-être, est-ce que... pour toi, revoir Pogba à la Juve, c'est un pari risqué sportivement? Et surtout, est-ce que, comme le dit Guillaume, il y a une chance de le voir, de retrouver le Pogba étincelant de ses années Juventus?
Je suis assez partagé parce que premièrement, je ne peux pas me contredire une semaine après. Ouais. La semaine dernière, en parlant de Lyon, je disais que les retours en arrière, ce n'était jamais une bonne idée. Ce n'est pas cette semaine que je vais dire le contraire. Je suis toujours convaincu que ce n'est jamais une bonne idée. Mais je veux aussi croire ce qu'a évoqué Guillaume. J'ai du mal à croire que Pogba soit perdu en club quand je vois le joueur qu'il est en équipe de France et le joueur qu'il a été notamment à l'Euro l'année dernière, ouais, malgré une équipe de France qui était plutôt décevante. Et j'ai envie de croire que Pogba a besoin de retrouver une forme de confiance, un cocon, un environnement un peu familial. Alors, tu sais, très loin d'être un club familial, mais en tout cas, c'est quand même un club qui est très différent dans le fonctionnement.
Moins exposé peut-être que Manchester United au niveau global.
Absolument, moins dans la pub, dans le sponsor, etc. Donc, j'ai envie de croire que cet environnement-là qu'il connaît peut lui permettre de reprendre confiance, de retrouver son jeu tout simplement. Donc, je suis assez partagé entre l'idée du retour en arrière et Guillaume pourra peut-être nous en dire plus sur ce que veut faire la Juventus, parce que si l'idée, c'est de prendre Pogba et de construire quelque chose de nouveau autour de lui, avec des joueurs jeunes, etc., ça peut être une très bonne chose. Pogba est un leader de vestiaire. S'il a ce rôle-là, ça peut lui permettre justement de retrouver son jeu. Maintenant, si l'idée, c'est de refaire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire empiler des noms, on a entendu parler de Di Maria cette dernière semaine, a priori, c'est un petit peu plus froid aujourd'hui, mais si l'idée, c'est ça, bah, je pense que c'est une mauvaise idée.
Alors, Guillaume, c'est quoi l'idée derrière le retour de Pogba pour la Juventus surtout ?
Écoute, il y a deux visions différentes à la Juve. Tu le sais, si on en a souvent parlé dans Mercredi Mercato, même dans le Tour d'Europe. Ouais. La Juve avait entamé quand même un projet rajeunissement. Il y a Vlahovic qui arrive en janvier. C'est vrai qu'il y a une volonté quand même de rajeunir l'effectif, de baisser la masse salariale. Donc, c'est vrai que quand tu vois Pogba arriver à 10 millions d'euros, qui a quand même son âge, et Di Maria, Julien l'a souligné, c'est vrai que ça fait un peu tiquer. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, Allegri, lui, veut des joueurs d'expérience. Allegri, ça n'a jamais été un entraîneur qui lance des jeunes. Il a connu une saison compliquée avec la Juve. Il finit quatrième, c'est avec des champions, c'est le minimum syndical là-bas. Et c'est vrai que lui, voilà, veut des joueurs d'expérience pour retrouver le titre et regagner des titres, parce qu'il faut rappeler que la Juve, ça fait 10 ans qu'il s'est pas connu une saison blanche. Ouais. Donc Allegri, si tu veux, il n'a pas le temps, lui, avec un gros contrat, avec son salaire, s'il touche 1 million d'euros, Allegri à la Juve. Donc lui, il veut gagner maintenant. Et c'est vrai que Agnelli, Nedved sont un peu partagés parce que ils ont tout misé sur Vlahovic en janvier, qui est un très jeune joueur. Ils ont mis 70 millions d'euros dessus, plus 10 millions d'euros de bonus. Donc, c'est vrai qu'il était Allegri derrière qui pousse pour avoir un fort d'expérience. Donc,
il y a deux. J'ai l'impression que ça ne pousse pas dans le même sens, surtout.
Ah, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a deux visions qui s'opposent. Aujourd'hui, Cyril, mercredi, la presse italienne, justement, parlait de différentes visions. C'est pour ça que Allegri aurait rencontré le PSG. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, on sentait qu'Allegri était un peu. Elle est contrastée par rapport au mercato qui était en train de faire la Juve, parce que Di Maria n'est pas arrivé, Pogba devra arriver, mais bon, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore officiel. Donc, il y a vraiment deux visions différentes qui s'opposent à la Juve. Et Pogba, c'est peut-être toi le bon compromis, parce qu'il n'a pas non plus 35 ans.
Bien sûr.
On va dire qu'il a encore, il n'a pas encore 35 ans, donc il est encore dans la fleur de l'âge. Et on a envie de croire vraiment que, quand on voit le Pogba de l'équipe de France et celui de Manchester, voilà, on a envie de croire que celui de l'équipe de France peut redevenir aussi celui de la Juve. Donc, c'est vraiment deux vision qui s'oppose du projet de la Juve, et les deux, c'est de s'accorder, mais crois-moi que c'est pas toujours simple.
Est-ce que il y a une chance de voir Pogba, je sais pas, titulaire, j'imagine que oui, mais capitaine à la Juve, enfin voilà, moi c'est plus sur la place dans le projet. Est-ce que c'est un joueur parmi d'autres, ou est-ce que on le prend en se disant ok, lui c'est notre superstar, on va faire un duo Vlahovic-Pogba, et pour les 5 années qui viennent, ce sera ça notre base de travail?
Alors peut-être pas la superstar, ce sera forcément le leader technique, pour une raison simple, c'est que vous le savez comme moi, le milieu de la Juve souffre d'un manque de qualité depuis des années. Quand on repense au trio Pirlo, Vidal, Marquinhos, c'est souvent ce qui est pris en exemple. Ouais. Il y a un manque criant de qualité à la Juve au milieu de terrain. On sait que beaucoup de joueurs pourraient partir, dont Rabiot, notamment dont McKennie, Arthur, évidemment, Ramsey, j'en parle même pas. Donc, Pogba, il arrive, il aura sa place de titulaire, il aura ce rôle de leader technique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il vient, Pogba. C'est parce qu'il sait qu'il aura le temps de jeu nécessaire et le rôle aussi de patron du milieu, de patron technique de la Juve. Donc, quoi de mieux que ça, Cyril, comme
mais
projet?
Mais est-ce que patron de vestiaire, est-ce qu'il va passer devant les vieux qui règnent à la Juve depuis des années et prendre le pouvoir, tout simplement?
Mais tu sais, les vieux, il les connaît. Bonucci, ouais, il les connaît. Allegri, il les connaît. Donc, forcément, Pogba, il revient à la Juve. Il ne revient pas sur la pointe des pieds. Il revient, c'est Pogba. Tu sais, les supporters, j'en ai discuté avec quelques supporters de la Juve qui me disaient « Bah ouais, mais Pogba, il est souvent blessé, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir le petit frisson quand on en parle. Ouais. » Et quand Pogba va revenir à Allianz Stadium, je peux t'assurer que ça va créer une étincelle dans tout le stade et même dans le vestiaire qui pourrait faire que la Juve pourrait vraiment redémarrer vers l'avant l'année prochaine. Donc, il sera le leader du vestiaire, le leader technique, parce qu'à la Juve, on connaît le rôle qu'il a eu et ce n'est pas un inconnu. Donc, le fait qu'il revienne maintenant, dans un moment aussi où la Juve a besoin de ce leader-là, parce que la Juve n'est plus la Juve qu'il a quittée à l'époque, qui gagnait tout, qui avait fait une finale des champions. Donc, voilà, Pogba revient à la Juve dans un moment où les deux, peut-être, avaient besoin de se retrouver. Donc, pour moi, c'est vraiment le match idéal au bon moment pour Pogba et pour la Juve.
Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume, de ta venue dans Mercredi Mercato. Rassurez-vous, on entendra Guillaume parler italien tout au long de l'été dans Mercredi Mercato. Ce n'est pas la dernière fois qu'il vient nous rendre visite. Guillaume, tu sais ce qu'il y a juste derrière toi ?
Dis-moi.
C'est un test assez incroyable. J'ai oublié de l'annoncer dans le sommaire parce que j'en ai tellement peur que je l'ai un petit peu occulté. C'est évidemment le Merca Quiz avec Quentin Guichard, notre graphiste, qui va nous poser des questions sur le parcours d'un joueur qu'il va falloir deviner. Donc, accrochez-vous, parce que la semaine dernière, Julien m'a humilié, on va le dire honnêtement. Donc, j'espère que Quentin va être plus sympa avec moi. Allez, c'est l'heure du redouté, du redoutable Merca Quiz. On accueille Quentin Guichard, le graphiste qui se cache derrière l'animation graphique de Mercredi Mercato. Quentin, il s'est passé un drame la semaine dernière, une humiliation en place publique avec cette victoire de Julien. Ouais, ça dépend pour qui. Ben, je parle de mon cas personnel. Je l'ai très mal vécu, Julien. Donc, Quentin, avant de rappeler que Julien mène 1-0 dans ce Merca Quiz qui se déroulera tout l'été, peut-être un petit rappel des règles du jeu du Merca Quiz. C'est quoi ?
Salut messieurs, effectivement le Merca Quiz, eh ben, c'est très simple. Je vais vous égrener le parcours d'un joueur et je vais vous laisser des petits indices par-ci, par-là, et le premier de vous deux qui trouve l'identité de ce joueur remporte un point dans ce match du Mercato Estival 2022, où Julien mène effectivement 1-0 après ce qu'on a appelé en interne le Moringate, cet immense malaise qui nous a envahi la semaine dernière après cette fulgurance de Julien, tout simplement.
Je pensais qu'on parlait de Pays de Galles. Hein. Gloucester, pour moi, c'est toujours au Pays de Galles. Donc,
c'était un petit peu chaud, on ne va pas se mentir. Et une semaine n'a pas été de trop pour s'en remettre. En tout cas, j'imagine que Julien a fêté ça comme il se doit.
Absolument. Ça se voit encore, d'ailleurs.
Ouais, le sourire ne t'a pas quitté depuis la semaine dernière.
Bon, alors, c'est parti. Donc là, on rappelle que c'est un joueur en activité. Hein. Tu me confirmes ça
Bien sûr, toujours. Enfin, c'est la règle de base. Joueur en activité.
Eh bien, Quentin, la parole est à toi. La honte est à nous. C'est parti.
Je débute au FCO Vigneux de 2003 à 2005.
Oh, c'est dur.
Je rejoins ensuite le CS Brittany Football, où je reste 2 ans. Je passe avec succès un test à l'AJ Auxerre, que j'intègre à 13 ans et où je suis régulièrement surclassé. Je suis appelé dans les diverses catégories de jeunes de l'équipe de France et en 2011, je participe à l'Euro des moins de 17 ans organisé en Serbie.
2011.
Je joue 3 matchs et m'illustre en marquant un doublé lors de la première rencontre face à l'Angleterre. Je dispute ensuite la Coupe du Monde des moins de 17 ans en compagnie de 2 autres Auxerrois, Soulayo Meite et Raphaël Calvet. Lors de ce mondial, je joue 4 matchs.
Je sais.
Je me mets en évidence lors de la première rencontre face à l'Argentine en marquant un but et en délivrant une passe décisive. La France est éliminée en quart de finale par le Mexique.
Est-ce que c'est un arrière-droit ?
Non. En juin 2011, dans la foulée de mes performances lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel avec Auxerre et joue mon premier match 1 an plus tard contre Nîmes lors d'une victoire 2-0.
Voilà, on devrait l'avoir déjà là.
En mars 2013, j'inscris un doublé avec l'équipe de France des moins de 19 ans lors d'une rencontre amicale face au Danemark. En novembre 2013, je suis convoqué pour la première fois par Willy Sagnol pour jouer avec l'équipe de France Espoir. Je joue mon premier match contre l'Arménie lors des éliminatoires de l'Euro Espoir 2015.
Ah, mais longue, là.
Je me mets tout de suite en évidence en inscrivant un but avec à la clé une large victoire sur le score de 6-0. Malgré cela, je ne suis plus appelé avec les espoirs en 2014. En manque de temps de jeu à l'AJ Auxerre, je suis supervisé par Didier Martel, ex-joueur de l'AJA et recruteur du football club Utrecht. Et j'y suis prêté 6 mois avec option d'achat lors du mercato hivernal 2014-2015.
Aller ?
Ah, bien joué.
Sébastien Aller. Oh là là, il recolle. Oh, il recolle.
Oh là 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 là.
Ah, j'avais que des noms de joueurs étrangers qui venaient.
Mais non, mais au Serbe, et oui, évidemment, évidemment, ouais. Sébastien Haller, révélation de la saison de Ligue des Champions.
Tout à fait.
Ouf, ça fait du bien. Elle fait beaucoup de bien, celle-ci.
Alors, celle-là, elle fait du
très
bien,
bon ouais. joueur aussi. Très bon joueur.
Excellent joueur. Excellent joueur. N'est-ce pas? Je me suis pas trompé sur celui-là.
Ouais, voilà. Exactement.
Et bah, ça fait un partout. Ça fait un partout, balle au centre.
Un partout, ouais.
Je suis deg.
Quel match.
Ouais, c'est haletant. Hein. On suit. mais c'est haletant, mais par contre, on met à peu près 18 minutes pour trouver Sébastien Haller quand même.
Alors là,
alors
le podcast.
Que, bon, ouais. Un buteur passé par la JA, a priori, ça devrait
mais
aller
mon
un
vrai
peu
problème,
plus vite.
C'est la temporalité. Pour moi, c'était plus loin que ça. Mais...
Oui, bah, Anthony Le Talec en 2011, on est bien, tu vois. C'est...
Ouais, il avait déjà 37 ouais. ans. Donc,
Bon, bah, on vous donne rendez-vous évidemment tout l'été. N'hésitez pas à répondre aussi et à venir nous dire sur Twitter si vous avez trouvé avant nous. Il n'y a pas de doute, a priori. Je pense que vous
avez. Autant la semaine dernière, c'était
ouais,
pas sûr.
C'est ça. À partout, balle au centre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Quentin. On en profite pour remercier aussi Simon Farvac à la réalisation de cette émission. C'est la fin de ce numéro de Mercredi Mercato. Julien, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si tout va bien d'ici là, avec cette forte chaleur. Porte-toi bien, hydratez-vous bien, tous à la maison. Et donc, rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Salut à tous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.